La mode des dîners à Rome par René Cagnat. Dans une société affairée comme la nôtre, les relations sociales sont singulièrement difficiles. On compte ceux qui peuvent disposer de leur matinée. Nul n'est libre de son après-midi. On la doit, suivant sa profession, à ses affaires, à ses clients, à l'État. Certains d'entre nous ne recouvrent leur liberté qu'à la nuit close. Au milieu de toutes ces occupations, il n'est point de place pour l'amitié. Voilà pourquoi les dîners et les réceptions du soir sont devenus presque une nécessité. On ne se réunit plus seulement à certaines dates pour fêter quelques joyeux anniversaires ou pour grouper les membres séparés d'une même famille. Plusieurs fois par semaine, parfois chaque jour, lorsque la saison est dans son plein, on va s'attabler chez des amis avec des convives connus ou inconnus. Les gourmets y mangent bien ou mal, suivant les cas. Ceux qui se plaisent aux conversations frivoles ont de quoi se satisfaire. Les gens graves trouvent à qui parler. Pour tous, le dîner est une occasion d'oublier pendant quelques instants les tracas de la profession et de goûter le charme de la vie mondaine. Les Romains, sans connaître heureusement pour eux toutes les préoccupations de la vie moderne, avaient bien aussi leurs affaires. « Si tu aimes le repos, » dit Horace à un de ses correspondants, « et s'il te plaît de dormir jusqu'à la première heure, quitte Rome et va-t'en à Ferente. » C'est là que, comme dans toutes les grandes villes, la vie renaissait avec le lever du soleil. Les maisons s'ouvraient aussitôt, et la réception traditionnelle des clients commençait. Elle ne durait pas plus tard que 8 ou 9 heures. Alors se succédaient les audiences de justice, les réunions d'affaires, les assemblées politiques. Les séances du Sénat pouvaient se prolonger jusqu'à 5 heures du soir, les comices populaires jusqu'à la tombée de la nuit. Il suffisait d'un orateur un peu long, et il y en avait déjà, pour retenir les auditeurs plus tard encore. Qu'on joigne à cela certains devoirs à remplir entre-temps, visite à des malades, à une famille en deuil, à un candidat nouvellement élu, obligation d'assister au procès d'un client, à la plaidoirie d'un avocat, à la lecture publique du dernier ouvrage d'un poète, à l'ouverture d'un testament, à la prise de touche virile d'un jeune voisin ou aux fiançailles d'une parente, et l'on comprendra qu'il était bien difficile, avant le soir venu, de consacrer son temps à la vie du monde. Aussi les Romains éprouvaient-ils, comme nous, le besoin de terminer leur journée autour d'une table amie. L'âge de la République connaissait cette mode. Elle se développa sous l'Empire. Les poètes l'ont chantée, les moralistes l'ont critiquée, les satiriques l'ont attaquée, les romanciers l'ont dépeinte. Grâce à eux tous, nous pouvons nous faire une idée assez précise de ces réunions. Ceux qui liront cet article s'étonneront peut-être de les trouver si voisines des nôtres, du moins par certains côtés. Les maisons romaines, le fait est bien connu, ne ressemblaient point à celles que nous habitons aujourd'hui. Elles répondaient à des besoins très différents, aux nécessités d'un autre climat, à des habitudes d'architecture assez éloignées des nôtres. Pour les décrire en 2 mots, il suffit de dire qu'elles se composaient d'une suite de 2 petites cours à ciel ouvert, entourées de colonnades, autour desquelles étaient groupées les différentes pièces de l'habitation. La première cour se nommait atrium, la seconde péristyle. C'est sur celle-ci, à l'endroit le plus retiré de la maison, que s'ouvrait la salle à manger, ou même les salles à manger, car les demeures riches en possédaient plus d'une, appropriées aux différentes saisons, des pièces bien closes pour l'hiver, susceptibles de se chauffer et tendues d'étoffes épaisses formant portières, des chambres aérées pour l'été, pavées de mosaïques, que l'on arrosait pour entretenir la fraîcheur et donnant sur des parterres en miniature comme on aimait à emménager au fond du péristyle. Le mobilier se composait essentiellement d'une table et de lits. Tout le monde sait que l'on mangeait non assis mais couché, le coude gauche appuyé sur un coussin. Les lits, au nombre de 3, entouraient la table de 3 côtés, le 4e restant libre pour le service. Ils étaient légèrement inclinés dans le sens de la longueur, de façon que les convives eussent la tête plus haute que les pieds. On les couvrait naturellement de riches étoffes, de coussins, d'oreillers. Dans la suite, les 3 lits furent remplacés par un lit unique en forme de demi-circonférence. Chaque lit pouvait contenir 3 personnes au plus. Un groupe de 3 lits suffisait lorsque le nombre des convives n'était pas, ainsi qu'il était recommandé, inférieur à celui des grâces ou supérieur à celui des muses. Sinon, il en fallait plusieurs, on dînait par petites tables. Toute famille aisée possédait alors de la vaisselle d'argent, et plus d'un Romain aurait pu dire, avec le trimalcion de Pétrone, « L'argenterie, moi, j'en raffole ». Les amateurs recherchaient les pièces historiques à l'exemple du personnage de Martial, qui croyait posséder la coupe de Laomédon et de celle de Didon. Les riches, moins instruits ou moins naïfs, se contentaient d'ouvrages remarquables par leur beauté ou leur valeur, témoin cet habitant de Pompéi surpris par la mort au moment où il venait d'enfermer en une cachette les 97 pièces du trésor de Bosco Reale, acquises depuis peu par le musée du Louvre. Cette orfèvrerie s'étalait sur des dressoirs d'apparat, dans quelques coins de la salle à manger, afin de ne point encombrer les tables qui étaient assez petites. Pour la même raison, on n'y entassait pas, comme chez nous, des verreries, des plats montés, des fleurs. Mais l'amour du luxe et de l'élégance est de tous les temps. Les valets apportaient les mets rangés avec art et étagés sur de grands surtouts qui contenaient tout un service. Autant de services, autant de surtouts différents, plus habilement aménagés les uns que les autres. Tel était, en peu de mots, l'aspect de la salle à manger et de son mobilier. Voyons qui étaient ceux qu'on y appelait. Tout gourmand que fussent les Romains, ils n'étaient pas sans priser l'agrément d'une société choisie, d'aucuns tenaient même pour préférable la qualité des convives à celle de la cuisine. Le soin d'un bon maître de maison était donc de composer le cercle de ses invités avec autant de soin que son menu. Un empereur et un fou comme Elagabal pouvaient s'amuser à convier ensemble 8 chauves, 8 louches, 8 goutteux, 8 sourds, 8 nègres, 8 maigres et 8 obèses. Un simple particulier devait chercher autre chose. Et d'abord, il réservait une large place aux amis de sa famille. Au début de l'État romain, les matrones et les jeunes filles restaient enfermées dans leurs maisons, filant la laine et dirigeant les travaux de leurs esclaves. La loi les déclarait alors les humbles servantes des hommes. Mais la coutume, plus clémente et plus forte, en avait fait peu à peu les compagnes de ses plaisirs comme de ses peines. Jadis, les femmes que leurs maris emmenaient dîner en société s'y asseyaient sur des chaises tandis qu'ils s'étendaient sur des lits. Sous l'Empire, au grand scandale des moralistes amoureux du passé, elles prenaient place, elles aussi, sur les lits auprès des invités. Les jeunes filles même étaient conviées avec leurs parents. On avait seulement la précaution de les faire sortir de la salle avant la fin du repas. Elles allaient causer et rire dans quelque autre partie de la maison où ne pouvait arriver ni l'écho des paroles un peu libres que le dessert autorise, ni le bruit des réjouissances qui terminaient la fête. Les mères restaient jusqu'au bout, et c'était sans doute un grand bien. Leur présence devait empêcher souvent le festin de dégénérer en orgie et les conversations de s'égarer en propos trop licencieux. Comment l'amphitryon n'aurait-il pas recherché aussi les gens d'esprit, les fins causeurs à la parole facile, à la répartie prompte et spirituelle? Ceux-là seront toujours l'ornement d'un dîner. Et l'espèce n'en était pas rare à Rome. Plus d'un s'y piquait volontiers de ces qualités d'homme du monde, si charmantes en société, et l'on avait inventé pour les désigner le nom d'urbanité. L'urbanité se reconnaissait à 1000 signes, au ton, aux manières, un certain choix d'expressions inconnues de quiconque était né en dehors de la ville éternelle, comme aussi à une façon discrète d'user à propos d'une large érudition puisée dans le commerce des hommes instruits. Heureux le mortel qui possédait ces qualités, heureux aussi ceux qui pouvaient l'attirer à leur table. Il n'était point inutile non plus d'inviter quelqu'un de ces hommes, souvent curieux et bavards, mais parfois intéressants et agréables, qu'on appelait des nouvellistes. Nous autres, que la presse quotidienne inonde de ses productions, nous n'apprécions guère l'homme assez audacieux pour raconter en société ce que nous avons lu quelques heures plus tôt et nous réciter à sa façon la série des faits du jour. Il en allait tout autrement autrefois. Les gazettes étaient inconnues, les moyens de communication très lents. Tout s'apprenait par la conversation. C'était donc une bonne fortune de rencontrer un convive bien informé et d'apprendre de sa bouche les grosses nouvelles. Qu'elles fussent toujours vraies, qu'il n'y eut pas autant de contes et de faux bruits que de réalité, c'est ce que je n'oserais affirmer. À en croire les satiriques, rien n'était plus ridicule que les nouvellistes. Comme l'Arias de la Bruyère, ils avaient tout vu, ils voulaient le persuader ainsi. Ils auraient mieux fait aimer mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. Ils connaissaient le contenu des dépêches arrivées de l'armée de Dacie avant même que l'empereur les eût ouvertes. Ils savaient combien de fois il avait plu dans la Haute Égypte, combien il était arrivé de navires africains chargés du blé qui alimentait Rome. Il connaissait le nom du poète qui devait mériter la couronne au prochain concours du Capitole. Mais tout exagéré, tout mensonger que fussent ces récits, on prenait plaisir à les écouter, à les provoquer au besoin. N'ouvrons-nous pas chaque jour un journal avec l'entière persuasion qu'une bonne partie de ce que nous y verrons sera démenti le lendemain? Des femmes du monde, des hommes d'esprit, un ou deux nouvellistes de profession, c'est là de quoi composer une société agréable. Pour la compléter, il suffisait de faire appel à des parents ou à des amis. Parmi ceux-ci, quelques-uns veulent être présentés au lecteur. Le vieux garçon riche, sans enfant, a occupé de tout temps dans la société un rang à part. Sa situation le désigne aux entreprises des ambitieux qui cherchent fortune pour eux ou pour leurs filles. Les médisants prétendaient qu'à Rome le titre de célibataire aisé était le meilleur pour être invité de tous les festins. « Sans enfant, disait-il, cela ouvre toutes les portes, attire toutes les flatteries, commande tous les sourires. Au vieux garçon, la place d'honneur, à lui les bons morceaux, les couples les plus riches et les mieux remplis. Qu'il se taise ou qu'il parle, c'est un oracle. On ne sait qu'admirer davantage la patience de ceux qui lui jettent l'hameçon ou le calme avec lequel il se le laisse jeter sans y mordre. » Voici encore des convives qui ne nous sont pas inconnus. Le fonctionnaire en retraite, qui raconte sa carrière avec amour, les commandements qu'il a exercés, les ambassades dont il a été chargé, les succès qu'il a obtenus. Le voyageur qui narre ses courses par terre et par mer, les périls de l'océan démonté et des forêts hantées par les voleurs, les inconvénients des auberges trop habitées, les curiosités des rivages inconnus, des peuplades reculées, et qui ne se lasse jamais de s'entendre pour ce qu'en lui racontant, dit Plutarque, il est avis qu'il jouit de la chose même et ne peut se saouler de la raconter et remémorer. Le chasseur, enfin, avec ses hableries éternelles, ses aventures de chiens, de sangliers et de lièvres. Bavardage, si l'on veut, que tout cela, mais bavardage utile, car il occupait les convives et empêchait les conversations politiques. Oh, rien n'était dangereux à l'époque impériale comme de s'occuper des choses de l'État. Les mauvais empereurs, on le comprend, n'entendaient pas qu'on se mêlât de leur gouvernement. Ils auraient même imposé l'oubli, s'il était aussi aisé, suivant la forte expression de Tacite, d'oublier que de se taire. Et le mieux pour eux serait en effet qu'on pût perdre le souvenir de leur règne. Mais que les bons empereurs, tels qu'Adrien, aient entendu aussi imposer silence à leur sujet, même entre deux plats, c'est ce qui peut sembler plus extraordinaire, et pourtant rien de plus exact. L'organisation de la police secrète ne laissait rien à désirer à cette époque. On m'a conté qu'il y a quelque 30 ans, une personne de qualité donnait une grande soirée à Paris. À cause de l'affluence des invités, il était impossible que la police se désintéressât de la réunion. Un agent supérieur de la préfecture vint en prévenir l'hôte qui se rendit, de bonne grâce ou autrement, peu importe, au désir exprimé. « C'est bien, monsieur, lui dit-il. Combien voulez-vous de cartes d'invitation ?»« Monsieur, reprit le représentant du préfet, soyez assez bon pour me communiquer d'abord la liste de vos invités. » Il la parcourut rapidement et la rendant à son interlocuteur. « Merci, monsieur, cela suffit. Nous serons très honorablement représentés à votre soirée. » Le fait aurait pu se placer sous le règne d'Adrien, dans cette ville où il n'y avait que des yeux et des oreilles pour guetter tout ce qui était ou même tout ce qui n'était pas. On se figure dès lors le malaise du maître de maison et des convives quand l'un d'eux, plus imprudent, ou peut-être payé pour ce métier, mettait la conversation sur la politique à l'heure où le vin délie les langues et endort la prudence. C'est alors qu'un esclave fidèle pouvait rendre service à son maître en l'avertissant du danger par un mot chuchoté à l'oreille ou par un signe furtif. Tous les moyens étaient bons en ce cas. Pour détourner la conversation, dut-on la laisser s'égarer sur les scandales de la vie privée des voisins et des amis, sujet toujours fécond, toujours nouveau. Au moins ne courait-on pas risque, à s'aventurer sur ce terrain, d'être dénoncé à l'empereur et envoyé pour le reste de ses jours dans quelque île de l'archipel ou sur les bords du pont Euxin. Entre l'exil et la médisance, voire même une demi-calomnie, il n'y a point à hésiter. Toutes les maîtresses de maison connaissent la contrariété que cause, à la veille d'un dîner, l'absence d'un convive attendu. Il faut bouleverser l'ordre des places attribuées à chacun et l'économie longuement combinée de la table, à moins qu'on ait quelque jeune homme, quelque dame amie à qui on puisse faire signe pour réparer le malheur. Les Romains, en pareil cas, s'adressaient à un client, à l'un de ses protégés de la famille qui se pressait chaque matin dans l'atrium de la maison pour saluer le lever du maître et se recommander à lui. Sur un mot de son patron, il accourait à l'heure dite, heureux de se dévouer et de gagner un repas. Et pourtant son sort n'était pas toujours enviable. Les esclaves le recevaient avec le mépris insolent des serviteurs qui se sentent le droit de juger un invité. On le faisait asseoir à la dernière place. Les mets, la boisson, le couvert, tout était différent pour lui. Si l'on servait aux autres une lamproie magnifique, il ne recevait, lui, qu'un crabe farci avec la moitié d'un œuf ou un mauvais poisson du Tibre. Si tous buvaient dans des coupes précieuses, on lui confiait seulement un vase en terre, parfois fêlé. Au lieu d'esclaves jeunes et beaux, il y avait à ses côtés un nègre à la main osseuse qui s'occupait de sa personne lorsqu'il n'avait rien de mieux à faire. Il lui fallait accepter tous ses mécomptes en silence et le sourire aux lèvres, s'estimer heureux même s'il ne servait pas de risée aux convives excités. Pouvait-il payer trop cher l'honneur d'être admis à la table de son protecteur pour y remplir une place vide? Tous les invités sont arrivés peu à peu. Ils ont échangé la toge, leur habit de ville, pour un vêtement plus commode. Au lieu de souliers, ils ont chaussé des sandales. Ils se sont groupés sous les portiques du péristyle ou dans quelques salons de réception. Ils attendent l'heure du repas. Enfin, le maître d'hôtel a fait son apparition. On l'appelait nomenclateur. Il indique à chacun sa place. Aux gens d'importance, il désigne le lit du milieu qui est le plus honorable. Les autres se couchent sur l'un ou sur l'autre des lits de côté. Le festin va commencer. Un esclave a présenté au maître de la maison une tablette enduite de cire où est écrit le menu. Celui-ci en donne lecture à ses hôtes, sauf à revenir sur chaque plat en particulier au cours du repas, pour en marquer les avantages, en souligner les raffinements. Car le gourmet n'est point une invention moderne, et bien avant Brillat Savarin, Martial et d'autres avaient philosophé sur les choses du goût. Ils savaient fort bien que la grive est le premier des oiseaux, et le lièvre des quadrupèdes, que de toutes les couronnes, la meilleure est une couronne de grive. Que si le canard doit être servi tout entier, il n'a de bon que la poitrine et le cou. Le reste peut être envoyé à l'office. En gens sensés, ils n'ignoraient pas non plus que pour que les choux aient bonne mine, il faut les verdir dans de l'eau nitrée, et que lorsque l'on mange un bec figue au dos luisant et gonflé de graisse, la sagesse veut qu'on le poivre. Mais revenons au menu. Plus d'un écrivain a compté les dîners auxquels il a assisté ou ceux qui étaient la fable de Rome. Mais ils le font d'habitude par raillerie, ou pour trouver un prétexte facile à étaler leur indignation. On ne saurait les prendre au mot. Mieux vaut s'adresser à des documents plus certains, et nous n'en manquons pas. Par deux fois, Martial, en invitant à souper ses amis, les prévient de ce qu'il compte leur offrir. Un jour, il leur promet des laitues, des poireaux, du thon recouvert de tranches d'œufs, des choux verts, des boudins sur une bouillie blanche, des fèves au lard, des pois, des raisins secs, des poires de Syrie, des châtaignes de Naples rôties. Ailleurs, il annonce la carte suivante, mauve, petite laitue, poireaux, menthe, roquette, anguilles bardées de rue et couronnées de tranches d'œufs, tétines de truie à la saumure de thon, chevreaux hachis, fèves, choux nains, poulet, jambon, fruits doux. Macrobe, d'autre part, nous a gardé le menu d'un festin offert à l'occasion de l'élection de Lentulus à une fonction religieuse. 6 prêtres et autant de prêtresses étaient réunis à ce repas, et parmi eux était Jules César. Voici donc ce que mangea ce jour-là le vainqueur de Pompée, ou du moins ce qu'il put manger, car j'espère pour lui qu'il sut faire un choix. Entrée. Coquillages, oursins, huîtres, palourdes, spondyles, grives, poules sur des asperges, terrines d'huîtres et de palourdes, bec figue, filets de chevreuil et de sanglier, pâté de volaille grasse, murex et pourpre. Service. Tétine de truie, hure de sanglier, plat de poisson, terrine de tétine de truie, canard, sarcelle bouillie, lièvre, rôti de volaille. Dessert, crème à la farine, biscuit. César, Kaiser ou Tsar ne se contentent plus aujourd'hui de repas aussi indigestes. Quant au vin, dont tous ces menus ne parlent pas, chacun sait que les Romains en appréciaient les vertus. On ne cite pas moins de 80 marques supérieures, dont l'Italie fournissait les 2/3. Tous les lecteurs connaissent de nom le Falerne, si réputé qu'on le falsifiait de 1000 façons, ce qui pour un vin est le comble de la célébrité. Le Sécube, le préféré d'Auguste, le Sorrente, qu'il fallait boire non dans des coupes d'or, mais dans le vase de terre où il avait vieilli, le Syracuse, toujours célèbre. À la Gaule, on demandait le vin de Marseille, d'un goût fumeux, aromatisé d'herbes, celui de Béziers et celui de Vienne, qu'on additionnait de pois. À Lesbos et à Quillot, les crus si fameux dans le monde antique. Il nous sera aisé de nous représenter en imagination quelques-uns de ces grands dîners. Avant de toucher à aucun mets, l'amphitryon adresse une prière aux dieux et leur offre les prémices du festin. Puis il fait distribuer aux invités des couronnes de fleurs ou des feuillages qui orneront leur tête pendant toute la soirée. Les esclaves s'empressent autour de la table, apportant le pain sur des plateaux ou dans des corbeilles d'argent, le vin dans de grands vases où l'on puise avec de longues cuillères nommées siatus. Attentifs aux moindres signes, ils se multiplient pour satisfaire à tous les désirs. Comme l'usage des fourchettes est inconnu, quand les aliments solides ont été découpés par les serveurs, chacun en saisit les morceaux avec les doigts et les porte ainsi à sa bouche. Aussi faut-il, entre les différents plats, que les valets passent à la ronde, versant de l'eau sur les mains et la recevant dans un bassin. Au début, les convives occupés de satisfaire leur appétit songent surtout à faire honneur au repas. Mais avec le second service, les conversations se font plus animées, les bons mots se croisent, les rires se répondent. C'est le moment qu'un hôte bien appris choisira pour offrir des surprises à ses invités, pour leur faire servir par exemple un énorme sanglier, dont le ventre est rempli de griffes vivantes, prêtes à s'envoler au premier coup de couteau qui leur rendra la liberté, pour appeler deux esclaves porteurs de lourdes amphores. Sous un prétexte futile, une querelle éclatera entre les deux valets. Les bâtons se lèveront et s'abattront, les amphores voleront en éclats, et l'on verra s'en échapper des huîtres qu'on distribuera au dîneur. Domitien et Caligula trouvaient plus plaisant encore. Tout à coup, des croque-morts entraient dans la salle à manger et déposaient en silence, derrière chaque convive, un cercueil tout ouvert. Et le prince guettait l'effet produit sur les physionomies par cette invention macabre. Voilà qui était pour faire apprécier à ses invités leur dîner de famille. Puis venaient les toasts. On procédait de deux façons. Ou bien on appelait par son nom le convive en l'honneur de qui l'on buvait, et on lui tendait la coupe qu'il devait épuiser d'un trait. Ou bien l'on se chargeait soi-même de l'opération, à condition d'avaler autant de verres de vin qu'il y avait de lettres dans le nom que l'on prononçait. Saluer un proculus, c'était s'engager à vider 7 coupes. La santé de l'empereur César n'en réclamait que 6. On frémit en songeant aux suites qu'entraînait un toast officiel à cette époque. Le dîner terminé, il fallait bien occuper le reste de la soirée. Les cigares n'étaient point encore inventés, non plus que le café. Tout au plus, les Romains avaient-ils quelque idée des liqueurs, qui étaient remplacées chez eux par des vins aromatiques de rose, de myrte, de violette, de mastic, de pistache, de fruits de toutes sortes. Ayant donc fini de manger, il ne leur restait plus qu'à boire. La soirée se terminait en beuverie. C'était aussi le moment consacré au plaisir de l'esprit ou des yeux. Aussi bien les langues étaient fatiguées et la vue un peu obscurcie. Les convives étaient merveilleusement à point pour les jouissances artistiques. Tantôt Homer ou ses pareils en faisaient les frais. De bons diseurs venaient déclamer des poésies épiques, des fragments de l'Iliade, de l'Odyssée. Parfois on représentait des dialogues de Platon. Ceux qui n'aimaient point la philosophie avaient la ressource de sommeiller, en attendant un spectacle moins austère. Tantôt des acteurs jouaient des scènes de tragédie et de comédie. Après quoi, des chanteurs accompagnés de la lyre alternaient avec des chœurs. Pour qui préférait des spectacles moins graves, des ballerines de Gadès étaient toujours prêtes, en échange d'une honnête rétribution, à exécuter leur danse nationale au son de la flûte et des crotales, autrement dit des castagnettes, les mimes à étaler leurs farces grossières, les baladins et les bouffons leurs pitreries et leurs sauts périlleux. Au besoin, la société se contentait de chansons comiques. L'essentiel était de finir agréablement la soirée et de la prolonger le plus tard possible. Au milieu de ces distractions variées, le temps passait vite. Pline le jeune, pour faire l'éloge de son oncle, disait de lui « C'est un homme tellement sobre qu'il ne met jamais plus de 3 heures à dîner. » Tout le monde n'avait pas cette force de caractère. Aisément, on se laissait aller à doubler la dose. Minuit arrivé, il fallait bien pourtant mettre fin au plaisir. Chaque invité quittait le vêtement de table endossé au début du repas et les sandales pour reprendre l'habit de ville et les souliers. Il confiait à un esclave la serviette pleine de friandises et de cadeaux qu'il était d'usage d'emporter chez soi en souvenir de la fête. Un autre serviteur allumait la torche ou la lanterne destinée à éviter les faux pas et à écarter les rôdeurs de nuit. Et l'on rentrait chez soi comme on pouvait. Heureux ceux qui se réveillaient le lendemain, la tête légère et l'estomac dispos. Ainsi s'achève la mode des dîners à Rome par René Cagnat.